Bonjour à toutes et à tous. J'aurais aimé venir chez vous aujourd'hui dans d'autres circonstances que ce qui frappe votre communauté. J'aurais aimé me tenir devant vous pour une autre raison que celle du départ de votre bien-aimé Frédéric auprès de son Seigneur et de son Sauveur, qu'il a tant aimé sans l'avoir vu, qu'il a servi de tout son être sans le voir encore. Maintenant, il est auprès du Seigneur. Il voit le Seigneur. Et il jouit de la présence de son maître. Mais c'est sûr, il laisse derrière lui une jeune épouse, veuve maintenant, des parents désemparés, des sœurs qui sont inconsolables et des frères et sœurs que vous êtes qui le pleuraient. Le Seigneur sait que vous êtes sous le choc. Le Seigneur sait que son absence est très douloureuse pour vous tous. Le Seigneur sait que vous vous posez plein de questions. Et il vient, il veut venir ce matin pour vous réconforter. Ces paroles de l'apôtre Paul ont résonné dans mon cœur. Consolez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, nous dit-il. Alors, de quelles paroles parle-t-il précisément? Je vous invite à lire avec moi le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Ça y est. On va lire ensemble. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je vous invite à prier. Le psalmiste déclare, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous venons à toi. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous venons devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde, ta grâce et ton secours dans ces circonstances. Nous prions, Seigneur Dieu, que dans ton amour immense et ta miséricorde pour nous, pour cette Église, nous prions, Seigneur Dieu, que tu viennes nous parler, Seigneur, ce matin. Tu viennes nous réconforter. Tu viennes, Seigneur Dieu, consoler les cœurs, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Et nous prions que, Seigneur, tu nous assistes par ton esprit. Dans le beau nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Ceux qui perdent des êtres chers ont besoin d'être consolés. Ils ont besoin d'espérance et de réconfort. Au moment de la rédaction de cette lettre, donc aux Thessaloniciens, cela faisait environ 20 ans que le Seigneur est monté au ciel. Vous vous rappelez, ce jour où les disciples ont levé les yeux au ciel, regardant fixement le nuage qui avait caché Jésus, qui s'élevait dans les airs. Et ils s'étaient dit là comme ça, oh, peut-être qu'il va descendre tout de suite, là maintenant, immédiatement. Ils étaient là à fixer le ciel. Et à ce moment-là, deux anges leur sont apparus. Ils leur ont demandé, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller, allant au ciel. Cette espérance du retour de Jésus n'a jamais cessé d'habiter les cœurs des apôtres et des premiers chrétiens. Ils attendaient le retour du Christ. Et certains, comme les chrétiens de Thessalonique, pensaient que Jésus allait revenir de leur vivant, qu'aucun d'entre eux ne connaîtrait la mort. Mais des frères, des sœurs étaient décédés. Alors ils ne comprenaient plus. C'est pourquoi ils étaient affligés. Et Paul leur rappelle que cette espérance du retour du Christ et de notre rencontre avec le Seigneur est certaine, que nous soyons morts ou vivants. Et que ceux avec qui on a été séparés par la mort, eh bien, nous serons à nouveau réunis un jour. C'est une certitude. Et que les croyants morts dans le Seigneur sont déjà dans la présence de Jésus. Nous pouvons être consolés que Frédéric est déjà dans la présence du Seigneur. Il est bien auprès du Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ou par cet enseignement. Alors j'aimerais voir avec vous ce que c'est que la consolation au juste ce matin. Comment faire face à une telle perte? Comment surmonter un tel drame? Comment traverser la vallée des larmes pour les membres de sa famille, mais aussi pour l'Église, sa famille spirituelle? Quelle consolation l'Église peut-elle apporter dans ces moments-là? Comment être de vrais consolateurs? La parole de Dieu nous livre des vérités transformatrices sur ce Dieu qui se plaît à nous consoler. Et j'aimerais vous inviter à découvrir avec moi que d'abord la consolation divine est au cœur du programme de la grâce. Que la consolation humaine, la consolation chrétienne, a des limites. Enfin, que le lieu par excellence de la consolation se trouve au pied de la croix. La consolation de Dieu est au cœur du programme de la grâce. Quand moi je vous parle de Dieu, à quel attribut pensez-vous en premier? Peut-être vous pensez à son amour, sans aucun doute. Mais l'apôtre Paul, qui a connu tant de persécutions et d'angoisses dans son ministère, il a appelé Dieu le Dieu des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Vous pouvez lire avec moi le texte, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Le Dieu de toute consolation. Quelle délicieuse vérité qui nourrit notre âme abattue. Le Dieu de toute consolation. Quelle que soit la nature de l'affliction qui nous atteint, la Bible affirme, Dieu ne veut jamais nous laisser dans une tristesse excessive ou un abattement continu. Non, il vient vers nous pour nous consoler de nos malheurs. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui console, un Dieu qui se tient auprès de ceux qui sont affligés, abattus, pour les soutenir, les réconforter, les relever. Les trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sont présentées comme le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos affections. D'abord, Dieu le Père. Le psalmiste écrit déjà, « C'est toi, Seigneur, qui me secours et qui me console. » Le prophète Ésaïe présente Dieu comme celui qui se plaît à consoler son peuple. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Ésaïe chapitre 30, 40, verset 1. Ou encore, « Consolez, comme un homme qui console, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Isaïe présente Dieu comme un père au cœur de mère. Dieu nous fait sentir sa consolation au travers de sa tendresse et de son affection. Et ce n'est pas seulement le Père qui est porteur de consolation, le Fils l'est également. Jésus le Messie est appelé la consolation d'Israël dans la bouche de Siméon. Nous découvrons que la consolation de Dieu est au cœur du programme de la grâce, programme que Jésus a repris à son compte lorsqu'il, la première fois, il a appliqué ce texte du prophète Ésaïe à son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et durant tout son ministère, le Seigneur n'a cessé de consoler ceux qui avaient le cœur brisé. Et juste avant de mourir sur la croix, le Seigneur annonce à ses disciples désemparés et affligés la venue d'un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il dit: quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Ce n'est donc pas seulement le Père et le Fils qui sont porteurs de consolation, mais c'est dans la nature même de l'Esprit du Saint. Et de toute sa mission va dans ce sens. Et c'est cette mission de l'Esprit qui nous donne une première idée de ce qu'est la consolation. Comme le Saint-Esprit est appelé à remplacer Jésus qui va partir, être consolé, c'est recevoir de Dieu un bienfait destiné à soulager la douleur ou à combler le vide laissé par l'absence de l'être aimé. Deux verbes sont utilisés dans le Nouveau Testament pour traduire le mot consoler et nous aident à compléter cette définition. Le premier véhicule l'idée d'être appelé aux côtés de quelqu'un pour l'exhorter, l'encourager, le réconforter. Le second véhicule l'idée d'exprimer des paroles dans l'intimité. La consolation suppose donc une relation de confiance entre le consolateur et la personne consolée. Alfred Kuhn, dans son livre « Les uns les autres », suggère une autre dernière piste très intéressante. Le mot français « consoler » vient du latin et signifie « habituer ». Se consoler, c'est donc s'habituer à un mal irréparable. C'est faire avec. Et je vous propose donc cette définition pour consoler. Consoler, c'est être appelé aux côtés de celui qui souffre, de se rendre proche de lui, pour soulager sa peine en portant le fardeau avec lui et lui redonner de l'espérance par nos paroles, afin qu'il se familiarise avec sa nouvelle situation et retrouve le courage de vivre. Cette mission-là nous incombe à tous. En nous ordonnant de nous consoler les uns les autres, le Seigneur nous place au cœur du programme de la grâce. Et je crois qu'il n'y a pas de plus beau service que celui de la consolation pour découvrir toute l'ampleur de la grâce de Dieu. Nous sommes confrontés en tant que personnes, même chrétiennes, à deux problèmes aigus lorsqu'il s'agit de consoler quelqu'un. D'abord, connaissons-nous suffisamment bien les personnes de l'Église ou les personnes autour de nous, pour savoir si elles passent par des difficultés? Beaucoup souffrent et vivent en silence leurs épreuves, leurs drames. Deuxième question, deuxième gros problème, lorsque les circonstances sont connues de tous, comme ici par exemple pour Xil et pour la famille de Frédéric, pour ses sœurs, Laura, Julie, pour ses parents, savons-nous comment consoler? Ou formulé autrement, la qualité de notre relation est-elle suffisamment bonne ou intime pour apporter une consolation efficace? Si Dieu nous ordonne de nous consoler les uns les autres, c'est que c'est possible. Que des frères et des sœurs dans la foi peuvent être réellement une source de consolation pour celui qui se trouve dans le malheur. Toutefois, il est important de ne pas idéaliser l'Église, d'être réaliste quant à nos attentes par rapport aux frères et sœurs. Parce que l'homme est limité dans sa capacité à consoler. Et c'est le propos de mon second point. La consolation humaine est limitée. Je réalise à plusieurs reprises, lorsque je suis devant quelqu'un en souffrance, que je ne trouve pas de mots pour le réconforter. Je ne trouve pas de solution miracle à sa situation. Aucun verset ne me semble approprié à ce moment-là précis. C'est important de prendre conscience de nos limites dans ce service. C'est aussi important d'accepter l'idée qu'il y a certaines détresses, certaines afflictions que seul Dieu peut consoler. Et j'affirmerai même avec force que si Dieu ne nous a pas consolés, nous ne serons pas consolés du tout. Mais le Seigneur peut nous utiliser pour prodiguer sa consolation. Et cette grâce nous est offerte. Bien que toute consolation humaine a des limites, elle peut être réelle et authentique. Elle peut être réelle, authentique et déterminante pour la personne qui traverse la vallée des larmes. Elle est limitée, mais elle peut être réelle par la présence, par une présence compatissante. Vous savez, quand on souffre, on a tendance à s'isoler. On ne veut voir personne, ne parler à personne. Ce n'est pas important qu'à ce moment-là, il y ait une personne qui compatit. Juste être là, à ses côtés, une main chaleureuse, une accolade fraternelle, un regard qui dit long parfois, plus qu'un discours ou encore juste être à côté, pleurer avec elle. La présence compatissante peut soulager la douleur, la solitude ou encore les angoisses. Vous connaissez Beethoven, peut-être encore plus pour les pianistes, mais nous le connaissons tous. À cause de sa sourdité, communiquer pour lui était pénible et humiliant. On raconte qu'un jour, lorsqu'il apprit la nouvelle de la mort du fils d'un de ses amis, accablé par la douleur, il se rendit à la hâte chez son ami. Incapable de prononcer quelques paroles de compassion que ce soit, il s'assoit au piano qui occupait un coin de la pièce. Pendant plus de 30 minutes, il donna libre cours à ses émotions de la façon la plus éloquente possible. Plus tard, lorsque Beethoven fut retourné chez lui, l'ami fit la remarque que la visite du virtuose l'avait touché plus que toute autre chose. Pour consoler quelqu'un, il faut être présent. Il est impératif d'être présent. De prendre de son temps pour être là. De s'oublier soi-même. De mettre de côté ses propres soucis, ses propres priorités. D'oublier son propre bonheur ou son propre malheur pour pleurer avec ceux qui pleurent. Je me rappelle lors des obsèques de mon beau-père, en 2011, on a dû organiser très vite la cérémonie funèbre parce que dès qu'on a su que son corps allait être rapatrié. Parce qu'elle n'était pas là, j'étais toute seule à gérer tout cela. Il était en Chine pour le rapatriement. Parce qu'elle voulait qu'un certain pasteur vienne donner le message lors de cette cérémonie. Je me rappelle que je l'avais appelé et me disant certainement que c'est normal s'il me dit qu'il ne peut pas parce que voilà, il est très occupé et les samedis, on comprend, on est toujours très occupé, les pasteurs. Mais quand il a appris la nouvelle et notre demande, il m'a répondu et je me rappellerai toujours ces paroles qui ont résonné dans mes oreilles. Il a dit « Stéphanie, nous serons là ». Il a inclus son épouse aussi. Il y a des priorités et des lieux où il faut être. Mercredi, je crois que c'est ça mercredi, ce sera les obsèques pour Frédéric. Il y a des priorités et des lieux où il faut être là. Ce pasteur était là, dès le 8h du matin jusqu'à très tard l'après-midi, il nous a accompagnés. Il était là avec son épouse. Il était avec son épouse. Moi, je sais qu'il a dû annuler des rendez-vous. Je sais qu'il a dû se lever à 6h du matin pour être à 8h à Paris. Je sais qu'il a dû laisser ses enfants, sa famille aussi, une partie de sa famille, de côté. Notre consolation peut être limitée, mais elle peut être authentique par des gestes et des actes. Il y a 5 ans, une de nos sœurs à Avatio a perdu son mari. Se retrouver veuve à 45 ans, seule, sans enfant, avec une nouvelle maison qu'il venait juste d'acquérir, c'était trop à gérer. Alors, la première année de son deuil, l'Église s'est mobilisée. Nous avons fait tout un planning pour qu'elle ne se sente jamais seule, qu'elle ne soit jamais seule à la maison. Et pour aussi lui apporter une aide pratique. Les jeunes se sont organisés à tour de rôle pour faire les grands ménages de la maison, le ménage du printemps, par exemple, pour faire du jardinage. Vous savez, quand on a un pavillon, il y en a un jardin. Pour faire du bricolage. Voilà. Les jeunes ont passé tout un samedi, plusieurs samedis, à monter les rideaux. Voilà. Rendre visite à celui qui souffre, le conduire chez le médecin, lui apporter un repas, lui faire ses courses, ou encore passer une soirée avec lui, peuvent être des gestes qui l'aident à vivre dans le réel. Parce que celui qui souffre, celui qui passe par le deuil, n'a plus la force d'affronter les tâches quotidiennes. Tout lui semble insurmontable et pénible. C'est pourquoi la consolation passe obligatoirement par des gestes concrets de la vie de tous les jours. Elle est limitée, notre consolation humaine, mais elle peut être déterminante par des paroles. Des paroles bien pesées, dites à propos, apportent un grand réconfort à celui qui souffre. Celui qui souffre est assoiffé de tout ce qui pourrait l'aider à surmonter son désarroi. Et il va repasser dans son esprit les paroles qu'il a entendues. Et les plus profondes resteront ancrées en lui. Et celles qui ont été dites à mal à propos resteront aussi en lui. Malheureusement, même chez les chrétiens, nous trouvons des pénibles consolateurs. À l'exemple des 3 amis de Job que vous connaissez. Il y a le type Éliphaz, le monsieur qui sait tout et qui a toutes les réponses, mais qui ne sait pas compatir, ni écouter. Si tu t'approches de quelqu'un qui est dans l'affliction, dans le but de lui faire des leçons, alors s'il te plaît, mieux vaut pour toi de taire. Ferme ta bouche, ne dis rien. Tu lui feras plus de bien par ton silence que par tes paroles. Et si tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. N'essaie pas de combler le vide. Garde le silence. Il y a aussi le type, vous savez, de Tsofar, le monsieur verset biblique à tout bout de champ. C'est vrai, la parole de Dieu est source de consolation. Mais encore faut-il qu'elle soit utilisée à bien, à bon escient, et citée de manière appropriée. Jésus l'a vécu dans la tentation, vous vous rappelez. Une parole de Dieu mal utilisée devient une parole du diable. Soyons donc prudents et n'essayons jamais d'apporter une parole biblique, une consolation biblique, à quelqu'un d'affligé, sans prière ni discernement, et sans avoir bien compris ce que traverse la personne. Chaque consolation est unique, et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Si tu ne sais pas quoi dire, je le répète, ne dis rien s'il te plaît. Et ne cite pas de versets bibliques, parce que ça ne peut pas faire de bien. L'apôtre Paul affirme que pour consoler efficacement, il faut connaître le Dieu de toute consolation. Il faut avoir été soi-même consolé par Dieu. Alors nous saurons parler de Dieu comme il convient et nous serons capables de consoler les autres. Celui qui a été consolé par Dieu possède, on va dire, d'une certaine manière, une collection de paroles, une collection de versets bibliques qu'il peut utiliser pour consoler les autres. Non pas des textes, vous savez, qu'il cite à tout bout de champ. Non, non, mais dans la soumission de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu a réellement le pouvoir thérapeutique. Psaume 107 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit, les délivra de leurs infections. » La parole de Dieu peut réellement guérir les cœurs brisés. Elle est la seule source qui, elle est la seule qui touche notre cœur au plus profond de nous-mêmes. Et sous l'action de l'Esprit de Dieu qui agit, elle guérit, restaure même notre inconscient. La parole de Dieu prononcée sous l'action de l'Esprit peut redonner espérance. L'espérance à celui qui est son espérance. Ceux qui passent par l'épreuve sont tellement accablés par ce qui leur arrive qu'ils ne voient plus au-delà, qu'ils ne voient plus au-delà de leur souffrance. L'espérance est en eux et morte. Ça ne sera plus jamais comme avant, nous disent-ils, n'est-ce pas? Que vais-je devenir? Comment vais-je continuer à vivre? C'est vrai, ça ne sera plus comme avant. Ça sera différent. Mais ça ne veut pas dire que ça sera moins valable et moins beau. Ce sera juste différent. Les vrais consolateurs sont ceux qui savent entrouvrir par leurs paroles de nouvelles portes vers l'avenir. Et enfin, la parole de Dieu dit à propos, fait renaître la foi en Christ. La personne a besoin qu'on lui rappelle, qu'on lui redise, qu'on réoriente vers le Seigneur Jésus. Qu'on lui présente de nouveau qui est le Christ et qu'on l'encourage à s'approcher de lui, à s'accrocher à lui, pour ne pas abandonner la foi. Consoler les autres n'est pas une tâche facile. Il faut admettre et reconnaître nos limites d'abord et nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Enfin, le troisième point, la croix, c'est le lieu par excellence de la consolation. Un prof de théologie, Charles Cooper, a écrit « 4 mois après son mariage, son jeune épouse meurt victime d'un malaise cardiaque fatal. L'annonce de cette nouvelle si inattendue, si tragique, l'entraîne dans de terribles souffrances. Il écrit que les cartes de condoléances, les lettres, les coups de fil, les étreintes, l'amour des amis, tout cela l'avait aidé à survivre. Mais ce qui me permit surtout de reprendre les dessus, ça a été ma confiance dans la nature de Dieu, ajoute-t-il. Et c'est au pied de la croix que je peux découvrir la nature de Dieu. Qui est vraiment Dieu ? Au sein de la souffrance, la meilleure chose à faire, c'est de venir au pied de la croix. Pour nous aider à mieux visualiser le cheminement de la consolation, le psaume 84, versets 6 à 8, est une parfaite illustration. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Béka, ça veut dire la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie aussi la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent à Dieu devant Sion. Il y a dans ces images, dans ce verset, un puissant encouragement pour ceux et celles qui traversent la vallée des larmes, la vallée de la tristesse, de la dépression et du désespoir. Parce que dans cette vallée, Jésus nous accompagne. Parce que dans cette vallée, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous accompagne. Jésus, tout d'abord, essuie nos larmes. La croix est le meilleur endroit pour venir pleurer. Pour venir déverser notre cœur, répandre ce qu'il y a dans notre cœur. Jésus, il entend. Il est sensible à la voix de ceux qui souffrent. Il a une oreille exercée à entendre nos cris et nos pleurs. Les larmes sont des phrases pour lui. Un chrétien a raconté ceci. J'étais si désespéré que je cherchais le bois, la forêt, pour être tranquille, pour prier. Mais quand j'ouvris ma bouche, aucun son ne sortait. Je ne faisais que de pleurer. C'était des sanglots, que des sanglots. Mais je sais, ce jour-là, que Dieu a entendu. Le Seigneur aussi a essuyé mes larmes. Je l'ai vécu. Il a maintenant déjà 2 ans. Durant ces plus de 2 mois et demi, presque 3 mois, où je pleurais tous les jours et toutes les nuits, j'ai versé toutes les larmes de mon corps devant le Seigneur. Je pensais, il y a des moments, que j'allais devenir folle ou que j'allais mourir, en fait, à force de pleurer. Souvent, j'étais couchée par terre dans un désespoir si profond que je pensais mourir là, sur le sol. Simplement, Dieu pouvait me reprendre ma dernière respiration, juste là. Et une nuit, Bible ouverte, au pied de la croix, je revoyais le mal qu'on m'a fait. Et pour la première fois, j'avais mis des mots dessus. Alors j'ai dit au Seigneur, dans ma peine, j'ai dit, Seigneur, ils ont brisé mon cœur. Seigneur, regarde, mon cœur est brisé en 1000 morceaux. On ne peut plus les recoller. Je ne sais pas où les retrouver, ces morceaux-là. Seigneur. Alors que je pleurais, j'entendais une voix intérieure me murmurer. C'est moi qui ai créé ton cœur. Je sais où se trouvent les morceaux. Je sais comment les recoller. Et en même temps, j'ai vu, je ne sais pas comment vous le dire, son regard plein d'amour posé sur moi. Et j'ai senti sa main sur mes épaules. Et effectivement, je témoigne devant vous, le Seigneur a recollé les morceaux de mon cœur. Il a guéri mon cœur brisé. Si tu viens au pied de la croix continuellement, tu peux exprimer des larmes. Autant de fois qu'il te faut. Tu peux pleurer devant lui aussi longtemps que tu veux. Tu peux crier, hurler, autant de fois que tu en as besoin. Le Seigneur n'est pas celui qui dit, allez, c'est bon, ça suffit, lève-toi maintenant, ça suffit, hein, arrête de pleurer, hein, on passe à autre chose. Non. J'ai découvert au pied de la croix un Dieu qui se plaît à nous consoler, qui essuie nos larmes, qui nous prend dans ses bras pour nous consoler. Et un jour, on ne sait pas comment, mais un jour, voilà, eh bien les larmes cesseront de couler. Un jour, on ne pleure plus. Un jour, on se rend compte que Dieu a essuyé nos larmes. Un jour, la douleur de l'absence de l'être aimé est moins vive. Un jour, on s'aperçoit qu'on est habitué à son absence et à sa nouvelle situation. C'est pourquoi je vous invite à venir au pied de la croix pour dire votre peine, pour l'exprimer et pour vous pleurer devant le Seigneur. Et se présenter à lui aussi longtemps que dure notre tristesse et notre peine. Parce que le Seigneur sait s'adapter, sait adapter sa consolation à chacun de nous. Notre Dieu fait du sur-mesure, en profondeur et en douceur. N'hésitez jamais à aller au pied de la croix pour cela. Parce que Jésus essuie nos larmes. Ensuite, ce psaume nous montre que Jésus nous conduit et nous porte. Il dit « Leur force augmente pendant la marche » dans le texte du psaume. Il nous conduit en répondant à nos questionnements et à nos doutes. Vous connaissez peut-être Charles Finet, un grand homme de foi. La femme de Charles Finet mourut paisible et joyeuse dans la foi. La soumission de l'épouse ne laissa rien à désirer. Mais pendant un temps, sa douleur fut grande. Un jour qu'il en parlait à Dieu en prière, un dialogue s'engagea. « Tu aimais ta femme ?»« Oui, Seigneur. » »« L'aimais-tu pour elle-même ou pour toi ?»« Si tu l'aimais pour elle-même, pourquoi t'affliges-tu maintenant ?» Ne devrais-tu pas te réjouir de son bonheur ? Après cet entretien avec le Seigneur, Finet fut réconforté. Son chagrin fut atténué à l'idée du bonheur de sa femme auprès du Seigneur. Je me rappelle l'année dernière, donc ça faisait un an que notre sœur Jeanne était partie auprès du Seigneur. Là, ça va faire 2 ans. Je me suis rappelé que je me lamentais devant le Seigneur. Parce que je pense que c'était ma collaboratrice la plus proche dans tout notre service, notre ministère. Et les 8 années de cancer qu'elle a endurées, j'ai essayé d'être présente comme j'ai pu aussi. Donc voilà, on avait une relation très proche. Un an après son décès, j'avais pas fait du tout mon deuil. Je voulais pas regarder la chose en face. Et un jour, je me lamentais donc devant lui, et que je lui disais, mais pourquoi tu l'as repris un an après hein? Pourquoi et tout? Tu vois, il y a encore tellement de choses à faire ici, et puis il y a tellement de besoins, voilà, sa propre famille, les jeunes aussi de l'église, et voilà quoi. Et je me lamentais donc devant lui, et tout d'un coup, j'ai entendu le Seigneur, une voix me dire, elle est bien là où elle est. Oui, c'est vrai. Ok, je sais qu'elle est bien là où elle est. Alors, pourquoi tu veux qu'elle revienne? Puis, il me dit, maintenant, toi, suis-moi. Je me lamentais aussi parce que je me disais, moi, j'aurais voulu peut-être qu'on échange la place. Il a dit, toi, suis-moi. Il y a un moment donné, on ne sait pas comment, mais il faut cesser de pleurer. Il faut cesser de se lamenter. Et Dieu nous donne cette force. Notre force augmente pendant la marche, nous dit le Seigneur. J'ai compris. Toi, suis-moi. Toi, ta mission n'est pas finie. Tu as encore des choses à faire sur cette terre. J'ai encore à être perfectionnée par le Seigneur. C'est pour ça que je suis encore là. Deuxième point, le Seigneur nous porte. Lorsque nous titubons, lorsque nous défaillons. Vous connaissez tous ce poème, des pas sur le sable. Et j'aimerais ce matin le relire, me semble-t-il, il semble approprié pour la circonstance. Donc l'auteur écrit, « Une nuit, j'ai eu un songe. Je rêvais que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. » Je vous invite à fermer les yeux pour le visualiser. « Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. » Je regardais en arrière et j'ai vu qu'à chaque époque, chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie défilaient devant mes yeux. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours les plus angoissantes, les plus grandes peurs, mais aussi des plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'avais dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, même pas une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuves et des souffrances, eh bien, c'était moi qui te portais. » La croix est le meilleur endroit pour être conduit et être porté dans notre deuil par le Seigneur. En nous portant, en nous conduisant, il nous donne peu à peu la force nécessaire de vivre et de repartir. Il me semble, la dernière chose, c'est que Dieu nous restaure et nous guérit. Le texte dit, il se présente devant Dieu à Sion. Il se présente devant Dieu à Sion. C'est une merveilleuse promesse divine. Vous savez, c'est quoi cette image? C'est l'image de la participation aux activités humaines. Celui qui traverse un deuil n'a plus goût à la vie. Il n'a plus, trouve plus de sens à sa vie. Tous ses appuis se sont ébranlés. Un homme me disait en deuil, j'ai juste envie, j'attends juste de mourir. Je ne fais plus de projet, je n'ai plus de plan, je n'ai plus rien. J'attends juste de mourir et de rejoindre ma femme. On ne fait plus de plan dans le deuil. On ne voit plus. Au pied de la croix, il y a un moment donné, il y a un déclic. On sent notre force augmenter. Et un jour, on pourra se présenter de nouveau devant Dieu à Sion. C'est-à-dire, de nouveau, participer aux activités humaines, notamment à la joie de la famille, aux amitiés, à la vie d'église. Personnellement, pendant presque plus d'un an, je n'ai pas été à l'église, enfin, dans mon église en tout cas. Je ne pouvais pas participer à la joie de la vie. Mais quelle puissante promesse, n'est-ce pas? Un jour viendra où le soleil se lèvera de nouveau dans notre vie. Un jour viendra où on aura de nouveau goût à la vie. Un jour viendra où nous serons complètement guéris et restaurés par le Seigneur. Je vous invite maintenant à un temps de silence et de méditation devant le Seigneur. Allez, allez au pied de la croix. Dire votre peine au Seigneur. Dire votre chagrin. Répondez votre cœur. Pleurez devant lui. Et recevez de lui la consolation dont vous avez besoin. Et j'invite aussi le groupe Louange à venir pour nous préparer, pour qu'on puisse terminer ce moment par le chant « Tout mon espoir ». Seigneur, notre Dieu et notre Père, vois la peine, Seigneur, vois la douleur qui sont dans les cœurs. Entends, Seigneur Dieu, les cris. Entends, Seigneur Dieu, les pleurs, Seigneur. Toi seul, Seigneur Dieu, sais comment nous consoler. Oh Dieu, viens, viens consoler la famille endeuillée de Frédéric. Seigneur, s'il te plaît, fais sentir, Seigneur Dieu, ton amour, ta présence. Fais-leur sentir, Seigneur Dieu, que tu es vraiment là, que tu pleures avec eux. Que tu ne les laisseras jamais seuls. Tu ne les abandonnes pas dans cette situation, mais que tu les accompagnes. S'il te plaît, Seigneur Dieu. Seigneur, s'il te plaît, viens également consoler les frères et sœurs qui sont là, pour qui Frédéric est un frère cher, un cher frère. S'il te plaît, Seigneur Dieu, viens mettre, Seigneur Dieu, ta consolation au fond d'eux, afin qu'eux sachent comment soutenir Xil et puis toute la famille de Frédéric. S'il te plaît, viens, Seigneur, porter cette communauté endeuillée. Tu as promis, Seigneur Dieu, que tu es là au milieu de ton Église. Seigneur, répands ton amour au milieu de nous. tes vers, Seigneur Dieu. Déverse tes paroles dans le cœur, Seigneur, pour nous consoler. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Merci de nous écouter. Merci, Seigneur, parce que nous découvrons, Seigneur, que ton amour est plus grand. Ton amour est plus grand que la mort. Ton amour est plus grand que la séparation. Ton amour, Seigneur Dieu, est même plus grand que la relation que nous avons entretenue avec Frédéric. Oui, ton amour est plus grand, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Dieu, nous faire goûter encore à ton amour. Merci. Merci, Seigneur, de nous bénir et de bénir cette communauté, Seigneur Dieu, et de les consoler. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Sachez que les épreuves, le deuil, ne nous propulsent pas dans les ténèbres comme nous pourrions le croire, mais dans la présence lumineuse de Dieu. Je vous invite à vous lever et à proclamer que tout notre espoir, se trouve dans le Christ. Que nous voulons compter sur lui, tenir bon, parce que c'est lui qui nous tient.
Thank you.
qui nous tient. Oui, Seigneur, alléluia. Le Seigneur Jésus marche au milieu de son Église. Le Seigneur Jésus est présent ici, au milieu de son Église. Et c'est pourquoi chaque enfant ici, chaque enfant de Dieu ici tiendra bon. C'est pourquoi la famille de Frédéric, c'est pourquoi l'épouse de Frédéric tiendra bon. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Parce que nous savons que notre assurance est basée sur ce que tu as fait pour nous. Et non sur ce que nous faisons, Seigneur. Et basée non pas sur notre foi, mais basée sur ce que toi, Seigneur, sur ton amour, sur ta justice et ta fidélité. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus qui marche ici, présent au milieu de son Église. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen.